Chapitre 16. La révolte de Corée, Dathan et Abiram. La jalousie. Le chapitre 16 reprend l'histoire du désert, histoire triste et humiliante quant à l'homme, mais brillante et bénie au point de vue de la patience et de la grâce de Dieu. Ce sont les deux grandes leçons du désert. Nous y apprenons ce qu'est l'homme, mais aussi ce que Dieu est. Et Corée, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, s'éleva dans son esprit, et Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, qui était fils de Ruben, et ils se levèrent devant Moïse, avec 250 hommes des fils d'Israël, princes de l'assemblée, hommes appelés au conseil, des hommes de renom. Et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent : C'en est assez, car toute l'assemblée, eux tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Et pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la congrégation de l'Éternel ? Versets 1 à 3. Ici nous arrivons à la solennelle histoire de ce que le Saint-Esprit, par l'apôtre Jude, appelle la contradiction de Corée. La rébellion est attribuée à Corée parce qu'il en était le chef religieux. Il semble avoir possédé une autorité suffisante pour réunir autour de lui un grand nombre d'hommes influents. Des princes, des hommes appelés au conseil, des hommes de renom. Examinons attentivement la source et le caractère moral de cette terrible rébellion. C'est toujours un moment très critique dans l'histoire d'une assemblée lorsqu'un esprit de division s'y manifeste. S'il n'est pas réprimé selon Dieu, les plus désastreuses conséquences en résulteront certainement. Il y a dans chaque assemblée des éléments d'opposition. Il suffit d'un esprit remuant et dominateur, pour agir sur de tels éléments et changer en une flamme dévorante le feu qui couvait en secret. Il y a toujours un grand nombre d'individus prêts à se rallier autour de l'étendard de la révolte, dès qu'il a été déployé. Satan ne prendra pas le premier venu comme instrument pour accomplir une telle œuvre. Il lui faut un homme rusé, adroit et énergique, un homme qui ait de l'influence sur l'esprit de ses semblables et une volonté de faire pour poursuivre ses projets. Les grands conducteurs des révoltes qui ont eu lieu dans ce monde ont généralement été des hommes d'un esprit supérieur, capables de gouverner à leur gré la foule inconstante qui, semblable à l'océan, se laisse soulever par tous les vents d'orage. De tels hommes savent remuer les passions des peuples afin de s'en servir ensuite. Leur levier le plus efficace pour soulever les masses, c'est la question de leurs droits et de leur liberté. S'ils peuvent réussir à persuader les gens que leur liberté est menacée ou que leurs droits sont en frein, ils sont sûrs de rassembler autour d'eux un grand nombre d'esprits mécontents. Tel fut le cas de Corée et de ses alliés. Ils essayèrent de persuader le peuple que Moïse et Aaron agissaient en maîtres avec leurs frères et qu'ils portaient atteinte à leurs droits et à leurs privilèges comme membres d'une sainte congrégation. À leur jugement, tout y était sur le même niveau. Et chacun avait autant que l'autre le droit d'agir. C'en est assez, ose-t-il dire à l'homme le plus doux de toute la terre. Mais Moïse avait-il accaparé quoi que ce soit? Bien loin de s'emparer de dignité ou de responsabilité, il ne s'était montré que trop prêt à les refuser quand elles lui avaient été offertes et à succomber sous leur poids quand elles lui avaient été imposées. Il avait dit à Josué : Es-tu jaloux pour moi? Ah, que plutôt tout le peuple de l'Éternel fût prophète, que l'Éternel mît son esprit sur eux. L'accusation était donc entièrement injuste. Si Dieu distingue, appelle et qualifie un homme pour une œuvre, pour un service spécial, comment et pourquoi trouver à redire au don et à la charge conférée par Dieu? Et si Dieu n'a rien confié de particulier, comment prétendre être ou avoir quelque chose? Tôt ou tard, les ambitieux seront remis à leur place, et rien ne subsistera que ce qui est de Dieu. Corée et ceux qui le suivaient disputaient donc contre Dieu, non contre Moïse et Aaron. Ceux-ci avaient été appelés par Dieu à occuper une certaine place, à accomplir une certaine œuvre, et malheur à eux s'ils s'y étaient refusés. Ce n'étaient pas eux qui s'étaient élevés au-dessus de la congrégation. En fait, les rebelles turbulents cherchaient à nuire aux vrais serviteurs de Dieu dans le but de s'élever eux-mêmes. C'est bien souvent le cas des promoteurs de sédition et de mécontentement. Leur vrai but est de se rendre important. Ils parlent hautement des droits et des privilèges communs du peuple de Dieu. Mais en réalité, ils aspirent à une position pour laquelle ils ne sont nullement qualifiés. Si Dieu a conféré à quelqu'un une position à occuper ou une œuvre à faire, qui a le droit de s'y opposer ? Que chacun donc reconnaisse la place qui lui a été donnée et qu'il accomplisse l'œuvre qui lui a été confiée. Corée avait son œuvre, Moïse avait la sienne. Pourquoi Corée portait-il envie à Moïse ? Pourquoi accuser un serviteur revêtu des dons de Christ et qui accepte la responsabilité de leur emploi ? Ce principe est d'une immense importance dans l'Assemblée et en toutes circonstances où des chrétiens sont appelés à travailler ensemble. Ce serait une erreur de supposer que tous les membres du corps de Christ soient appelés à des places en vue ou que chaque membre puisse choisir sa place dans le corps. Tel est l'enseignement très clair de 1 Corinthiens 12, versets 14 à 18. « Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps », est-ce qu'à cause de cela il n'est pas du corps ? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comme il l'a voulu. Là se trouve la seule vraie source du ministère dans l'Église de Dieu, dans le corps de Christ. Dieu a placé les membres. Ce n'est pas un homme qui en établit un autre, encore moins est-ce un homme s'établissant lui-même. En examinant le sujet à la lumière du merveilleux enseignement de 1 Corinthiens 12, que dirions-nous si les pieds accusaient les mains, ou si les oreilles accusaient les yeux de prendre trop d'importance ? Il est vrai que ces membres occupent une place particulière dans le corps, mais pourquoi ? Parce que Dieu les y a placés comme il l'a voulu. Et que font-ils dans cette position particulière ? L'œuvre que Dieu leur a donnée à faire. Et dans quel but ? Pour le bien du corps entier. Tous les membres, si obscurs qu'ils soient, recueillent un avantage, des fonctions bien accomplies par un membre que Dieu a mis plus en vue. Et d'un autre côté, le membre plus en vue profite des fonctions bien remplies par le membre le plus obscur. S'il y a une perturbation dans les fonctions du membre qui paraît le plus insignifiant, tout le corps en souffrira. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si nous avons une place en vue ou obscure, mais si nous faisons l'œuvre qui nous a été assignée et si nous occupons notre vraie place. C'est par la coopération fidèle et soigneuse de tous les membres, selon la mesure de chaque partie, que s'effectue l'édification de tout le corps. Si cet ordre divin n'est pas saisi et maintenu, l'édification est empêchée, le Saint-Esprit est étouffé, les droits souverains de Christ sont niés et Dieu est déshonoré. L'attitude de Moïse. Lorsque Moïse entendit les paroles séditieuses de Corée et de ses alliés, il tomba sur sa face. C'était la meilleure chose qu'il puisse faire. On ne gagne rien à contester avec les gens mécontents et turbulents. Il vaut beaucoup mieux les laisser entre les mains de Dieu, car en réalité, c'est avec lui qu'ils ont affaire. Si Dieu place un homme dans une certaine position, s'il lui donne une certaine œuvre à faire, et que ses semblables lui cherchent querelle à cause de son obéissance à Dieu, alors leur querelle est réellement avec Dieu, et lui saura la régler selon sa sagesse. La conviction qu'il en est ainsi donne un grand calme et une élévation morale aux serviteurs du Seigneur. Il n'est guère possible d'avoir un service en vue ou d'être employé d'une manière particulière par Dieu sans rencontrer de temps à autre les attaques de certains hommes mécontents qui ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un plus honoré qu'eux-mêmes. Mais le vrai moyen de répondre à de tels gens, c'est de s'incliner dans l'humilité et dans le sentiment de son propre néant, puis de laisser passer sur soi le courant de la révolte. Et Moïse l'entendit et tomba sur sa face, et il parla à Corée et à toute son assemblée, disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, et celui qui l'a choisi, il le fera approcher de lui. Faites ceci, prenez des encensoirs, Corée et toute son assemblée, et demain, mettez-y du feu et placez de l'encens dessus devant l'Éternel, et il arrivera que l'homme que l'Éternel aura choisi, celui-là sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. » Versets 4 à 7. s'était placé l'affaire en de bonnes mains. Moïse met en première ligne les droits souverains de l'Éternel. L'Éternel fera connaître, et l'Éternel choisira. Il ne dit pas un seul mot sur lui-même ou sur Aaron. Toute la question repose sur le choix fait par l'Éternel. Les 250 rebelles sont placés face à face avec le Dieu vivant. Moïse les appelle à paraître en la présence de Dieu, avec leurs encensoirs en leurs mains, afin que toute l'affaire soit examinée et définitivement résolue devant ce grand tribunal. C'était la vraie humilité, la vraie sagesse. Et Moïse dit à Corée, « Écoutez, fils de Lévi, est-ce peu de chose pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir ? Qu'il t'ait fait approcher, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi, que vous recherchiez aussi la sacrificature ? C'est pourquoi, toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre l'Éternel. Et à Aaron, qui est-il que vous murmuriez contre lui ? Versets 8 à 11. Nous voyons ici la véritable cause de cette terrible conspiration. Corée aspirait à la sacrificature. C'était un Lévite qui, comme tel, était appelé à servir et à enseigner. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Deutéronome 33, verset 10. Le Dieu d'Israël vous a fait approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir. Telle était la sphère d'activité de Corée. Mais, non content de cela, il aspirait à la sacrificature. Corée recherchait quelque chose pour lui-même. Il semblait défendre les droits de toute l'assemblée. Mais Moïse, par l'Esprit de Dieu, démasque cet homme et montre que, sous ce prétexte plausible, il recherchait audacieusement la sacrificature pour lui-même. Il arrive fréquemment que ceux qui parlent bien haut des libertés, des droits et des privilèges du peuple de Dieu cherchent en réalité leur propre gloire et leur propre avantage. La grande chose pour chacun, c'est d'être trouvé occupant la place que Dieu lui a assignée et faisant son œuvre humblement, tranquillement et simplement. Des ministres et des sacrificateurs. Chaque membre du corps de Christ a quelque ministère à remplir, quelque œuvre à faire. L'édification du corps n'est pas seulement l'affaire de quelques dons éminents, mais résulte de l'opération de tous les membres dans leurs positions respectives, comme nous le lisons en Éphésiens 4, versets 15 et 16. Mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. D'autre part, il y a des dons spéciaux, tels que l'évangéliste, le pasteur, le prophète ou le docteur. Christ seul est celui qui les donne. La seule possession des dons conférés à de tels hommes en fait des ministres. Éphésiens 4, versets 11 et 12, 1 Corinthiens 12, verset 11. D'un autre côté, toute l'instruction et toutes les institutions humaines ne peuvent pas faire d'un homme un évangéliste, un pasteur ou un docteur, à moins qu'il n'ait reçu, de la tête de l'Église, un don spécial. Corée n'aspirait pas à devenir ministre, il l'était. Il aspirait à devenir sacrificateur, et il ne pouvait pas l'être. La sacrificature était dévolue à Aaron et à sa famille. Pour toute personne en dehors de cette famille, c'était une usurpation que de vouloir offrir des sacrifices ou accomplir quelque autre fonction sacerdotale. Or, Aaron est un type de notre grand souverain sacrificateur qui est monté dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Les cieux sont la sphère de son ministère. Il n'y a pas de sacrificature sur la terre maintenant, sauf dans ce sens que tous les croyants sont sacrificateurs. Ainsi nous lisons dans Pierre, « Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale. » 1 Pierre 2, versets 5 et 9. Tout chrétien est sacrificateur, selon le sens de ces expressions. le plus faible croyant dans l'Église de Dieu est aussi bien sacrificateur que Paul l'était. Ce n'est pas une question de capacité ou de puissance spirituelle, mais purement de position. Tous les croyants sont des sacrificateurs et sont appelés, comme tels, à offrir des sacrifices spirituels, selon Hébreux 13, versets 15 et 16. Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Telle est la sacrificature chrétienne. Aspirer à quelque forme de sacrificature autre que celle-là, se charger de quelque autre prétendue fonction sacerdotale, ou mettre à part un certain nombre d'hommes consacrés pour agir en faveur de leurs semblables, ou pour accomplir à leur place un culte ou tout autre service sacerdotal devant Dieu, c'est, en principe, le péché de Corée. Nous ne parlons que du principe, et non des personnes. Le jugement de Dieu. Le reste du chapitre offre une peinture saisissante du jugement de Dieu exécuté sur Corée et sur les siens. L'Éternel résout bien vite la question soulevée par ces hommes rebelles. Le récit en est effrayant, au-delà de toute expression. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les trois principaux promoteurs de la rébellion, et le feu de l'Éternel descendit et consuma les 250 hommes qui avaient entrepris d'offrir de l'encens. Verset 35. Et Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, car elles ne sont pas sorties de mon cœur. Si cela meurt selon la mort de tout homme, et s'ils sont visités de la visitation de tout homme, l'Éternel ne m'a pas envoyé. Mais si l'Éternel crée une chose nouvelle, et que le sol ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans le Shéol, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. » Versets 28 à 30. Moïse place ainsi la question uniquement entre l'Éternel et les rebelles. Il en appelle à Dieu et laisse tout entre ses mains. C'est le vrai secret de la puissance morale. L'homme qui ne se recherche pas lui-même, qui n'a d'autre but ou d'autre objet que la gloire de Dieu, peut attendre avec confiance l'issue de toute difficulté. Mais pour cela, son œil doit être simple, son cœur droit, ses intentions pures. Les fausses prétentions, l'envie et la présomption ne peuvent plus subsister lorsque la terre ouvre sa bouche et que le feu de l'Éternel dévore tout alentour. Il est aisé de faire le fanfaron, de se vanter et d'employer de grands mots lorsque tout est en repos. Mais dès que Dieu paraît avec son jugement terrible, l'aspect des choses change rapidement. Et il arriva, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, que le sol qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui étaient à Corée, et tout leur avoir. Et ils descendirent vivants dans le Shéol, eux et tout ce qui était à eux, et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de la congrégation. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, « De peur que la terre ne nous engloutisse. » Versets 31 à 34. Vraiment, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. Dieu est extrêmement redoutable dans l'assemblée des saints et terrible au milieu de tous ceux qui l'entourent. Psaume 89, verset 7. Car aussi notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, verset 29. Combien il aurait mieux valu pour Corée de se contenter de son service de lévite, qui était de l'ordre le plus élevé. Son emploi comme kehatite était de porter quelques-uns des objets les plus précieux du sanctuaire. Mais ce ne fut pas tout. À peine le sol s'était-il refermé sur les rebelles qu'il sortit du feu de la part de l'Éternel et il consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Verset 35. Ce fut une scène épouvantable, une manifestation terrible du jugement de Dieu sur l'orgueil et les prétentions de l'homme. Il est inutile à l'homme de vouloir s'élever contre Dieu, car il résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Quelle folie, chez ces vermisseaux, que de vouloir s'élever contre le Dieu Tout-Puissant. Sous le gouvernement de Dieu, la destruction suit inévitablement l'orgueil. Nous sommes dans un moment où l'homme tend de plus en plus à s'élever. Prenons garde. Quiconque s'élève sera abaissé. Luc 14, verset 11. Si nous sommes gouvernés par la règle du royaume de Dieu, nous verrons que le seul moyen d'être élevé, c'est de descendre. Celui qui occupe maintenant la place suprême dans les cieux est celui qui a pris volontairement la place la plus humble ici-bas. Philippiens 2, verset 5 à 11. Voilà notre modèle comme chrétien. Là aussi est l'antidote divin contre l'orgueil et l'ambition. Il est triste de voir un esprit présomptueux, remuant et impatient chez ceux qui font profession de suivre celui qui était doux et humble de cœur. S'examiner dans la présence de Dieu, puis être souvent seul avec lui, est le souverain remède contre l'orgueil et le désir de s'élever. Le lendemain. Le dernier paragraphe de notre chapitre démontre de la manière la plus frappante le mal incorrigible du cœur naturel. On aurait pu espérer qu'après les scènes impressionnantes qui s'étaient passées devant elle, l'assemblée d'Israël aurait appris des leçons profondes et durables. Ayant vu la terre s'ouvrir et engloutir les rebelles, ayant entendu leurs cris déchirants, ayant vu le feu de l'Éternel descendre et consumer 250 hommes, ayant été témoin d'un tel déploiement de la puissance et de la majesté de Dieu, ce peuple n'allait-il pas, désormais, marcher docilement et humblement devant Dieu, sans manifester de nouveau mécontentement et rébellion? Hélas, la chair est complètement incurable. Cette vérité se révèle à chaque page du livre de Dieu. Elle est démontrée dans les dernières lignes du chapitre 16. Et le lendemain, ce ne fut pas un an, ou un mois, ou même une semaine, après les scènes effrayantes sur lesquelles nous nous sommes arrêtés, mais, et le lendemain, toute l'assemblée des fils d'Israël, non plus seulement quelques esprits téméraires, murmura contre Moïse et contre Aaron, disant, « Vous avez mis à mort le peuple de l'Éternel. » Et il arriva, comme l'assemblée se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers la tente d'assignation, et voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Et Moïse et Aaron vinrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. » Versets 41 à 45. Voici, pour Moïse, une nouvelle occasion d'intercession. L'assemblée entière est de nouveau menacée d'une prompte destruction. Tout paraît sans espoir. La patience de Dieu paraît être à bout. L'épée du jugement est sur le point de tomber sur toute la congrégation. Et l'on voit, justement alors, que les rebelles et le peuple trouvent leur seul espoir dans cette sacrificature qu'ils avaient méprisée et que les hommes mêmes qu'ils avaient accusés de faire mourir le peuple de l'Éternel sont des instruments de Dieu pour sauver leur vie. Et ils tombèrent sur leur face. Et Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir et mets-y du feu de dessus l'autel et mets-y de l'encens et porte-le promptement vers l'assemblée et fais propitiation pour eux, car la colère est sortie de devant l'Éternel, la plaie a commencé. » Et Aaron le prit, comme Moïse le lui avait dit, et il courut au milieu de la congrégation, et voici, la plaie avait commencé au milieu du peuple. Et il mit l'encens et fit propitiation pour le peuple. Et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrêta. Versets 45 à 48. Cette sacrificature qui avait été si méprisée pouvait seule sauver le peuple rebelle et obstiné. Il y a quelque chose d'indiciblement beau dans ce dernier paragraphe. Aaron, le souverain sacrificateur de Dieu, se tient là, entre les morts et les vivants. Et de son encensoir s'élève un nuage d'encens qui monte jusqu'à Dieu, type frappant de celui qui, plus grand qu'Aaron, ayant fait par lui-même une parfaite expiation pour les péchés de son peuple, est toujours devant Dieu dans tout le parfum de sa personne et de son œuvre. La sacrificature était indispensable à ce peuple qui marchait dans le désert. C'était la riche ressource de la grâce divine. Grâce à l'intercession du souverain sacrificateur, le peuple était préservé des justes conséquences de ses murmures rebelles. S'il avait été traité simplement sur le principe de la justice, il aurait été consumé par le jugement divin. Si Dieu avait agi uniquement en justice envers son peuple, son nom n'aurait pas été pleinement glorifié, puisque ce nom implique, outre sa justice, d'autres attributs, tels que l'amour, la miséricorde, la bonté, le support, une compassion profonde et inépuisable. Or, aucune de ces choses n'aurait été connue si le peuple avait été consumé en un moment, et par conséquent, le nom de l'Éternel n'aurait pas été glorifié ou pleinement déclaré. À cause de mon nom, je différerai ma colère, et à cause de ma louange, je me retiendrai à ton égard pour ne pas te retrancher. À cause de moi-même, je le ferai. Car comment mon nom serait-il profané? Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 48, versets 9 et 11. Combien il est précieux que Dieu agisse envers nous, pour nous et en nous, pour glorifier son nom.